19h sur Présence, le moment pour vous est venu de retrouver l'actualité cinématographique avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Chaudement.
Vous avez donc eu du mal à venir à vélo, non ?
Je suis venu à pied du coup.
Ah oui, si vous faites bien. Bah oui, c'est le mieux, avec votre petit ventilateur à côté.
Voilà, on fait de clim à clim, en étant dehors un peu, on prend le chaud.
Dites-nous... Laurent, oui, parce que c'est la dernière de la saison.
Oui, vous avez
Laurent Martin,
déjà.
L'ouvreuse part en vacances, elle a déjà fourbi son matériel pour la plage.
Ah oui.
Pas de camping, parce que maintenant c'est fini le camping, ça ne l'amuse plus.
Oui, c'est plus terminé.
Son âge. Non, non.
Il faut son petit confort.
Ah oui,
son petit cinéma, même l'été.
Oui, elle est comme ça. Bon, nous serons absents pendant 10 semaines.
Oui.
Non, pas 15 semaines, 10 semaines.
Oui, au moins, ouais.
10 semaines jusqu'à la rentrée de septembre. Mais en attendant, vous avez quand même des films à nous conseiller pour regarder la télé depuis son canapé.
Oui, j'ai sélectionné 5 films pour le cinéma et la télévision cette semaine. Il y aura aussi 2 conseils de lecture, 2 livres de poche que l'on peut amener dans son sac à dos ou dans son sac de plage. Oui, on pense à tout.
Hein. Oh, mais vous êtes parfait, Laurent, vous êtes parfait. Il est là, et oui, et malgré toutes ses admiratrices qui lui font une haie d'honneur chaque fois qu'il arrive ici. Notre spécialiste de la mécanique cinématographique, Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir les maris, bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Comment allez-vous, Guillaume ?
Eh bien, chaudement.
Oui, vous aussi. Dites-moi, c'est original.
C'est original.
Alors ce soir, faites-nous rêver, de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, on va aller en plein air justement pour prendre l'air frais avec une savoureuse combinaison de grands spectacles pharaoniques et de sketchs alertes et rapides hérités du petit écran à retrouver. Donc ce jeudi 21h45 en plein air et en entrée libre et gratuite, c'est rare à souligner.
Ah oui, en plein air, il faudra conseiller d'amener de quoi boire, hein, parce que il risque de faire très très chaud. Et puis avec nous, bien sûr, il nous a posté son petit billet d'humeur au tribunal des séries, notre homme de loi, qui aura revêtu ce soir son habit de procureur, nous parlera de The Walking Dead. Je sais même plus si on peut toujours voir la série Netflix, peut-être. Toujours est-il que vous allez voir que notre Grégory Combe, car c'est de lui dont il s'agit, a la dent un peu dure avec The Walking Dead. Qu'y a-t-il d'autre encore dans le panier de l'ouvreuse ce soir ? Eh bien, elle va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Il y a quelques films quand même qui ont retenu son et votre attention, Laurent. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran avant les vôtres, Laurent. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, les coups de cœur. Parce qu'on a toujours des coups de... Pas des coups de cœur, bien sûr, mais toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et en plus, le week-end qui approche sera celui de la fête du cinéma. Vous allez pouvoir voir plein de films pour... C'est combien ? 5 euros. 5 euros du 29 juin au 1er juillet. Donc les coups de cœur de ce soir, on aura un gros cœur. Un cœur un peu comme la salle des pas perdus de la gare du Nord. Pourquoi la gare du Nord ? Parce que c'est sans doute la plus grande salle des pas perdus d'une gare française. C'est énorme, la gare du Nord. C'est gigantesque. Eh bien, avant de vous dire qu'on est ensemble jusqu'à 20h, il serait bon que je vous présente notre invitée. Eh oui, on a une invitée pour cette dernière de la saison, Amaya Sangeli, qui est chargée de communication au Vidéophage. Bonsoir Amaya.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Alors, les vidéophages, au fait, Amaya, qu'est-ce que c'est ?
Les vidéophages, c'est une association diffuseur de courts-métrages qui organise plusieurs événements, notamment les soirées mensuelles. Une soirée pendant laquelle sont diffusés 5 à 6 courts-métrages qui ont retenu notre attention. Et chaque année, nous organisons la Fête de l'Image, festival itinérant qui met en valeur chaque année un lieu différent de Toulouse.
Alors cette année, vous avez trouvé un joli lieu et un beau lieu hein, et qui convient tout à fait à la saison et qui va peut-être bien rafraîchir tous les spectateurs et tous les gens curieux ou pas qui viendront faire de l'image avec vous.
Oui, tout à fait. Cette année, on s'installe au Bassin des Filtres, qui est au quartier des Amidonniers, qui est connu pour sa guinguette Le Gros Arbre, ou notamment qui est placée derrière la piscine Chapou. On peut y venir en vélo ou en longeant la Garonne depuis la place Saint-Pierre en direction des Ponts Jumeaux.
Je ne saurais trop vous conseiller de parcourir, de lire carrément sur le programme de cette fête de l'image qui se déroulera quel jour à Maya Sangeli?
Ce sera le samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025, donc de cette année, de 18h à 2h du matin le samedi et de 16h à 2h du matin le dimanche.
Et donc je disais, il ne faut pas et surtout pas manquer l'édito de votre programme qui est assez savoureux. Où sommes-nous, nom d'un chien, dit la charpentière à haute voix en revissant sa jambe de bois. Ça commence bien, ça tient. Vous êtes chez moi, répond le héron. Nos faces ahuries s'illuminent. Nom d'une mouette poète, ça décoiffe les chauves-souris. Et quel est le nom de cet îlot fort urbain, sans qu'il y ait le ravaudeur de voile, le bassin des filtres dans l'archipel des Amidonniers? C'est là donc où vous nous invitez.
Tout à fait.
Alors on va regarder en détail le programme, mais on va faire ça avec tact et délicatesse, avec du temps, parce qu'on est ensemble jusqu'à 20h. Et comme le veut l'habitude, et il n'y a pas de raison que ça cesse, on commence par la projection d'un film. Allez, installez-vous confortablement, ça commence.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Finalement, c'est un chouette boulot, Scribe, n'est-ce pas, Guillaume Sidom?
Et vous avez reconnu évidemment le génial Edouard Baird dans la peau du Scribe Otis, scène improvisée que les producteurs voulaient couper pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, film d'Alain Chabat, sorti sur vos écrans en 2002. Musique signée Philippe Chani, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Une comédie référence portée par un casting de luxe avec en chef de file Jamel Debbouze. Casting 5 étoiles, je vais y revenir. Fantastix, Drôlatix, ou comment résumer en deux mots un film épique devenu culte dans l'univers de la comédie française. Une œuvre d'Alain Chabat qui s'en donne à cœur joie dans le grand n'importe quoi. Tout débute donc avec une mini-rix. Et j'arrête avec le X promis, la suffisante et sublime Cléopâtre face au suffisant et avachi César. Convaincue du génie de son peuple, elle décide donc de faire construire un nouveau palais destiné à ce dernier. Elle va passer commande auprès de l'architecte numéro bis, qui n'a donc que 3 mois pour réaliser cet ouvrage. Un palais en 3 mois, rendez-vous compte. Et sa seule solution pour y arriver, faire appel à l'aide de Panoramix, encore un X, et à sa potion magique. Et en revoyant le film pour les bienfaits de cette chronique ce soir, bien évidemment, c'est stupéfiant de découvrir le nombre de scènes mémorables, de répliques qui claquent, et surtout l'absence d'ennui tout au long des 100 minutes du film.
Et puis, le casting est impressionnant.
Monica Bellucci, Alain Chabat, Claude Rich, Gérard Darmon, Isabelle Nanty, Chantal Lobby, Gérard Depardieu, Christian Anclavier, Marina Foïs et d'autres personnalités qui viennent pour une seule scène, comme Joël Cantona, le frère de l'autre, ou qui vont prêter leur voix pour quelques secondes, à l'instar de Jean-Pierre Bacri. Reste que le film, évidemment, repose sur Jamel Debbouze et Edouard Baird, donc dans la peau d'Otis, le Scribe, vous venez de l'entendre, à eux donc de trouver une solution pour construire un palais en 3 mois.
Au moment de sa sortie au cinéma en 2002, le film passe le 14,5 millions d'entrées.
Énorme succès au cinéma. Dans la famille des chiffres, nous retenons aussi 50 millions d'euros de budget, 22 semaines de tournage, 2000 figurants, 5000 sandales et la douzaine de perruques nécessaires uniquement pour Cléopâtre. Mais les chiffres ne font pas tout. Alain Chabat a l'intelligence aussi de s'approprier l'univers de Goscinny et du Derzo. Il le sublime à l'écran en ajoutant sa patte, son humour et parvient à construire un grand film d'aventure reprenant les codes des films d'animation, des jeux vidéo aussi, auxquels il va ajouter des références de la pop culture. Alors, à chacun sa scène préférée, je concède une admiration et une fascination pour les apparitions d'Edouard Baird. Et comme c'est ma dernière chronique de la saison, je ne résiste pas à vous livrer quelques pépites sur les coulisses de ce tournage pharaonique. Dans l'histoire, donc, Cléopâtre promet un palais à César construit en 3 mois, je l'ai dit. Et le tournage de cette comédie est aussi un sacré défi. Déjà à l'époque, c'est le plus gros budget pour un film français, donc 50 millions d'euros. Multiplication d'effets spéciaux, milliers de figurants, 500 ouvriers pour construire les décors à Ouarzazate, un tournage à Malte, au Maroc. Bref, le film a l'envergure d'une production hollywoodienne et le tournage est parfois éprouvant. Le climat va jouer des tours à l'équipe du film, des tempêtes de sable avec Alain Chabat qui sait quand même garder son calme, mais aussi une chaleur dantesque. La difficulté, c'est que les personnages sont censés prendre de la potion magique et donc ne pas transpirer pendant qu'ils construisent le palais. Pas évident quand il fait parfois plus de 50 degrés. Quant à Alain Chabat, eh bien, il va continuer de diriger ses acteurs par talkie-walkie depuis les toilettes lorsqu'il attrape la tourista. Et pour réaliser son rêve, ce génie de la comédie ne recule devant rien. Jusque dans le moindre détail, le réalisateur français veut créer un film fidèle à la BD de Goscinny et du Derzo, donc, mais aussi à l'Égypte antique. Il fait appel à une historienne pour écrire 2 scènes où les comédiens parlent l'Égyptien antique. Une comédie épique et extrêmement drôle à regarder en famille. Une chose est certaine, Alain Chabat a trouvé la potion magique pour ce film. À retrouver donc ce jeudi 26 juin, 21h45 en plein air, place des Papyrus à Toulouse, ça ne s'invente pas. 10 minutes du métro Lavache, entrée libre et gratuite dans le cadre du Ciné sous les étoiles. Retrouvez toute la programmation sur métropole.toulouse.fr. Pour plus de confort, n'hésitez pas à vous munir de transat, coussins et plaids, et puis de l'eau évidemment. Et en Blu-ray et DVD chez Pathé Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma. C'est Philippe Chany, comme vous l'a dit Guillaume Sidom, qui a composé la bande originale du film Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix, bien sûr, d'Alain Chabat. Et là, c'est le moment des pirates, parce qu'il y a toujours les pirates dans n'importe quelle aventure d'Astérix et Obélix.
moi, Amaya, ou dites-nous, Amaya, Sangeli, cette musique, vous la connaissez?
Elle m'évoque quelque chose, oui. Un peu lointain.
c'est bah, un peu lointain. Ah, oh, ben non, pas tant que ça. C'est la bande annonce de Fête de l'image, telle qu'on peut l'avoir sur votre site. C'est la musique qui l'illustre, bien sûr. Mais nos auditeurs ont l'habitude de regarder leur poste et voient tout ce qui se passe dedans. Donc, ils ne sont pas désemparés. Amaya Sangeli, il y a plein de belles choses que vous proposez, à commencer par des projections.
Tout à fait. Alors, nos projections sont essentiellement composées de courts-métrages. Enfin, ce sont que des courts-métrages. Sur quatre thèmes. Donc, on aura deux thèmes par jour. Le samedi, on retrouvera Doux Amer, avec des courts-métrages plutôt sensibles, touchants, qui évoquent pas mal de sujets, finalement. On passe par l'amour, l'amitié, la découverte de soi, la découverte de l'autre. Juste après, à partir de minuit, on a un autre thème qui s'appelle Gentiment Trash. Un petit peu plus, axé sur des thèmes... comment dire ?
Gentiment Trash.
Voilà, en fait, le titre parle pour lui-même. Pareil, un petit peu de découverte de soi quand même, mais de manière un petit peu plus intense. Le lendemain, le dimanche, on aura à nouveau une programmation un petit peu plus douce vers 22h, qui s'appelle « Être sensible », être au...
Les êtres, là, c'est pas le verbe. Hein.
Tout à fait, ce sont les êtres qui sont sensibles. Avec des petites fictions et animations très très mignonnes. Je pense notamment à Jellyfish and Lobster, une fiction de Yasmine Afifi, qui raconte la rencontre entre deux occupants d'une maison de retraite qui sont là pour un petit bout de temps. Et c'est une rencontre très touchante, très douce, entre deux personnalités qui vont se rendre compte qu'une piscine est un petit peu magique, puisque quand ils plongent à l'intérieur de la piscine, ils rajeunissent.
Ça, c'est bien ça. L'humorisme pour vous. Ça.
Oui, merci, vous êtes bien aimable avec moi. Guillaume.
Oui, on parlait d'un festival itinérant, puisque vous changez chaque année de lieu. En quoi, justement, le lieu a son importance dans la construction de la programmation et du festival?
Le lieu a son importance parce qu'on choisit d'abord des quartiers qui sont rarement mis en valeur dans les festivals à travers Toulouse. Donc effectivement, le quartier des Amis Deniers, c'est une petite pépite assez dynamique, pourtant qui n'est pas hyper bien desservie, mais qui a énormément de potentiel. Et là, cette année, donc on a construit la programmation en fonction du lieu et en fonction du thème. Le thème, c'est sans filtre et on est au bassin des filtres. Donc c'est pas mal de créations in situ qu'on retrouvera également sur place.
Et la dernière programmation de dimanche concernant les courts-métrages s'intitule « Parlons politique » et à propos de ça, vous passez un film d'animation proprement magnifique, celui de Florence Miaille, « Papillon ».
Tout à fait, c'est un très très beau film animé, dessiné à la main.
Oui, et... dessiné et peint à la main sur verre. Ça a été fait pas très loin, et produit par les studios toulousains Xbo et la Ménagerie, qui sont à Tournefeuille. Et ils font plein de belles choses concernant l'animation, et en particulier l'animation traditionnelle. On va parler de tout ce qui se passe encore, à part les projections, puisqu'il y a des installations, des expositions, et quoi d'autre encore, des ateliers. Mais pour le moment, c'est l'ouvreuse qui reprend ses droits avec Laurent Martin. Et ils vont scruter ensemble l'affiche de la semaine. Laurent ?
À l'affiche cette semaine, F1, le film. Alors, mesdames et messieurs, montez le volume et rendez-vous au premier virage. L'histoire de... C'est le nouveau film de José Kosinski avec Brad Pitt et Damson Idris et Javier Bardem. L'histoire de Sonny Ice, un pilote vétéran qui sort de sa retraite pour devenir le mentor d'un jeune pilote, Joshua Pierce. Il tentera ainsi de retrouver aussi sa gloire passée. Des moteurs qui grondent au loin, les 24 heures de Daytona font rage et Brad Pitt a une course à gagner. Il émerge du minivan qui lui tient lieu de domicile ambulant, en une succession rapide comme ça de gros plans, décrivant sa routine de cow-boy cabossé. Brad Pitt est loin du... patrilène du Cliff Booth de Once Upon a Time in Hollywood, par exemple. Brad Pitt embarque ensuite dans sa bagnole, il noue avec lui. Il y a même le riff de World Outta Love de Led Zeppelin qui résonne. Un choix ultra rebattu, certes, mais qui dit bien où se situe l'ambition de F1, le film. Il ne s'agira pas ici de surprendre qui que ce soit, au contraire, mais seulement d'envoyer des rushs d'adrénaline savamment dosés au bon moment. Et José Koniecki redéploie alors instantanément la formule magique des scènes d'avion de Top Gun Maverick, cette sensation d'être dans la course, le tout porté par la coolitude suprême de l'homme au volant, Brad Pitt. Dès lors, on pardonnera beaucoup à F1, son scénario prévisible, qui semble avoir été écrit à la va-vite sur un coin de bureau de Bruckheimer, après un meeting au sommet avec Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, producteur et invité de luxe dans le film, qui a 40 ans, voit aussi sa carrière se termine un petit peu. Les responsables de la diffusion cinéma d'Apple, la firme de Tim Cook, qui a investi quand même plus de $200 millions dans ce blockbuster aux enjeux industriels énormes, qui surfe sur l'engouement assez récent d'ailleurs du grand public américain pour la F1. Ceux que là-bas ils sont pas trop, c'est plutôt le NASCAR là-bas, la F1 ils aiment pas trop, mais ça commence à venir. Lui-même boosté d'ailleurs par la série de commentaires sur Netflix, Drive to Survive, qui a eu un gros succès. Donc vous l'avez deviné, entre deux séquences de courses ultra grisantes, tournées au cœur de vrais grands prix, de Spa-Francorchamps à Abu Dhabi en passant par Las Vegas, il s'agira donc pour F1 de slalomer 2h35 durant entre les archétypes usés au fil d'un film, à la fois véloce et lourdeau. Sonny Ice donc va-t-il retrouver son mojo à la soixantaine passée et venir rivaliser avec Max Verstappen et Charles Leclerc sur leur propre terrain? Finira-t-il par s'entendre avec ce jeune loup, l'actionnaire Fauder chaud dans l'ongle? Endossera-t-il le rôle du méchant dans le dernier acte? Voilà, tout est cousu de fil blanc, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Le film procure le même genre de plaisir naïf que la lecture des Michel Vaillant de l'âge d'or. Et on l'a dit, Kosinski joue de la friction entre le passé et le présent, exactement comme il le faisait d'ailleurs dans Top Gun Maverick, en plaçant le corps d'une vieille star vieillissante au centre d'un tourbillon supersonique. Voilà, Brad Pitt n'avait jamais autant joué sur son âge que dans ce film. Il exploite à fond son côté terrien. Il y a même un côté Steve McQueen, vous savez, dans Le Mans, évidemment, film sur les 24 heures du Mans qui a été tourné par Steve McQueen. Et puis, l'un des derniers films de Steve McQueen s'appelait Junior Bonner, l'histoire d'un cowboy comme ça qui faisait son dernier rodéo. Voilà, donc loin de l'aura d'irréalité et la fragilité qui a toujours infusé ses plus grands rôles de Fight Club à Babylone, Brad Pitt apparaît plus rayonnant, frimeur et conquérant que jamais. Petite revue de presse sur ce film, difficile de trouver des critiques négatives. Kosinski et Bruckheimer semblent courir après le rêve d'un blockbuster chimiquement pur qui ne viserait au fond rien d'autre que le vertige d'une sensation. Selon Criticat, film actuel bien aimé aussi, un divertissement XXL qui assume son côté grand public tout en imposant une vraie patte visuelle. Il serait malvenu de bouder son vrombissant plaisir, selon le Figaro. Voilà. Guillaume, vous mettrez votre combinaison, votre casque et vous irez voir ce film, j'en suis sûr.
Je crois que Télérama n'a pas aimé.
Ah.
Enfin, généralement, ils n'aiment pas grand-chose. Hein,
oui, puis surtout quand c'est du sport et de la Formule 1. À l'affiche aussi cette semaine, Once Upon a Time in Gaza, le nouveau film de Tarzan Nasser et Aram Nasser. Il était une fois à Gaza en 2007. C'est l'histoire de Yahya, un étudiant assez rêveur qui se lie d'amitié avec Osama, qui est un dealer assez charismatique, un dealer au grand cœur. Bon. Et ensemble, ils montent un trafic de drogue caché dans leur modeste échoppe de falafel, mais ils croisent le chemin d'un flic corrompu venu contrarier leur plan. Louis-Marie, vous avez rencontré Aram Nasser.
Et oui, j'ai rencontré Aram Nasser, j'ai eu cette chance. Il était tout seul, sans Tarzan, son frère jumeau. Et il était là pour parler évidemment de son film. Et la première question, et celle qui intrigue quand on voit le titre, Once Upon a Time in Gaza, à quoi doit-on s'attendre et comment faut-il comprendre ce « il était une fois » Alors guettez bien, parce que Aram Nasser parle à la fois arabe, bien sûr, mais aussi anglais et français, ce qui met de temps en temps notre ami Samir Arabi dans des difficultés
de traduction.
Exactement, de traduction. Alors, on l'écoute. Once upon a time, pourquoi donc ?
أول شيء Once Upon a Time هي ما يعني سلسلة أفلام عملت بكل دولة almost في دول كتير عملت زي
Once Upon a Time ça a été fait dans d'autres contextes
Once Upon a Time in the West Once upon a time in Hollywood, once upon a time in Anatolia, once upon a time in Mexico. Yeah, there is many once upon a time. And the idea was to make once upon a time, not because of we want to make like the other, but the rhythm, the life in Gaza, it's look like kind of once upon a time.
C'était pas pour copier quoi que ce soit, mais c'était la vie à Gaza pousse à utiliser cette formule. Il était une fois.
لأنه بتحكي أنت عن حياة عن ريدم حياة ما في استمرارية ما في كونتينيوتي لأنه أنت فجأة بتكون قاعد فجأة بنزل عليك صاروخ.
On est tranquille et puis tout d'un coup il y a un missile qui va vous tomber sur la tête. Donc tout événement devient il était une fois parce que les choses se passent, se terminent et puis voilà.
La
guerre commence, on ne sait pas quand la guerre va se terminer.
Action partout.
Action partout, il finit par du français. À Rabnasser, vous l'avez compris, Once Upon a Time in Gaza, c'est un film à la croisée de tous ces genres, vous savez, puisque, en fait, il y parle de la vie à Gaza. Alors, l'action se situe en 2007, au moment où le Hamas a accédé au pouvoir, et le film a été tourné avant ce qu'il advient maintenant, dans la bande de Gaza, dont avant octobre 2023, avant le 7 octobre 2023. Donc, la situation a complètement changé. Et ce qui est décrit dans le film, c'est donc, vous l'avez dit, Laurent, l'amitié entre ces deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, puisqu'il y en a un qui est un jeune étudiant un peu naïf et un peu peureux, et l'autre, un dealer au grand cœur. Vous savez, c'est mecs qu'on aime bien, parce que même s'ils font quelque chose qui est pas très net, on les trouve vraiment très sympathiques. Et puis, il y a le flic. Alors lui, il a la gueule du flic, pas sympa du tout, et qui va arriver là-dedans. Trois types qui vont passer dans cette histoire, qui vont aller, donc on est là à la fois dans le western un petit peu, dans le polar, dans le thriller, dans le buddy movie forcément, puisqu'il y a deux mecs, il y en a deux qui font du trafic, alors ils ont leur échoppe dans lequel ils vendent des falafels, mais dans les sandwichs ils mettent les pilules, parce que en fait, ils trafiquent avec des médicaments, donc il y en a un qui va consulter, puis il arrive à piquer les ordonnances aux médecins et les tamponne, et après il peut acheter tous les médicaments qu'il veut grâce à ça et les revendre en les mettant dans ces petits sandwichs. Et puis évidemment le flic, ben il veut sa part du gâteau, mais Osama ne voit pas ça du tout de cet œil. Et tout va basculer avec un épisode tragique, et le jeune Aya, donc l'étudiant, va devenir l'acteur principal d'un film de propagande. Eh oui, il va être une espèce de Rambo dans un film qui va être à la gloire de Gaza, des Palestiniens de Gaza, contre les Israéliens. Et là, on entre dans vous voyez un peu cette mise en abîme, le film dans le film. Ça s'est déjà fait, La Nuit oui. américaine de Truffaut, par exemple, pour ne citer que celui-là, mais on y est. Quand on connaît le Aya, on se dit, mais il a rien du tout de ce personnage. Il n'a rien à voir avec ça. Et ça va marcher, ça va tourner, et puis il va y avoir la vengeance, et puis il va y avoir encore une fois de la violence, et bah, pas comme tous les contes, c'est un conte qui finit mal, mais ça marche diablement bien, parce que les frères Nasser nous entraînent dans ce labyrinthe, on s'en sort, on voit ce qui se passe à Gaza, on voit ce que c'est la vie là-bas, on voit qu'il y a des restaurants, on voit qu'il y a des pharmacies, on voit qu'il y a des médecins, qu'il y en avait en tout cas, plus maintenant. Ça, la donne a changé, mais en tout cas, le film reste un film particulièrement réussi.
À l'affiche aussi cette semaine, 13 jours, 13 nuits, nouveau film de Martin Bourboulon avec Roger Dizem. Le film évoque l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul en 2001. Et c'est cette parenthèse sanglante que Martin Bourboulon chronique avec l'instinct d'un reporter de guerre et des effets hollywoodiens, échange de braquet. Ici, on oublie les virevoltes des Trois Mousquetaires ou le faste d'Eiffel. Le cinéaste adapte l'ouvrage du commandant Mohamed Bida et plonge dans le réel le plus brûlant. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi, Ange de Tony Gatliffe, que vous pouvez voir au CGR Le Paris Montauban ou à l'American Cosmographe, Reflet dans un diamant mort d'Hélène Katté et Bruno Forzani à l'American Cosmographe, Au rythme de Vera Vim, vous pouvez voir à l'ABC de Toulouse, Stranger Eyes de Yeo Siu Ha, un film que vous pouvez voir à l'Utopia Borde Rouge, Megan 2.0 de Gerard Johnstone, qu'on peut voir au CGR Tarbes à Blagnac, Et puis pour finir, un film d'animation dès 7 ans, Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Valade et Liane Auchan, qu'on peut voir par exemple à l'ABC Toulouse.
Vous avez reconnu ce piano inimitable, c'est celui de Keith Jarrett. C'était en 1975, le fameux concert de Cologne qui deviendra, l'enregistrement en tout cas, le plus vendu pour être celui d'un jazzman solo, tout seul au piano, en improvisation. Il a pulvérisé les ventes mondiales. Et en fait, Au rythme de Vera raconte un peu, et même beaucoup, c'est ce qu'était la vie de Keith Jarrett et ce comment il imaginait sa musique. Et puis, à travers les yeux de Vera Brandes, qui a vécu, hein, c'est d'après une histoire vraie, qui, dès l'âge de 16 ans, était passionnée par le jazz et est devenue tourneuse, vous savez, elle organisait des tournées pour les musiciens de jazz. C'est arrivé un peu de façon fortuite quand elle était dans un café où qui passait du jazz à Berlin et où passait Ronnie Scott. Et ce qui fait rire, c'est que ce café, on peut boire, mais on peut surtout manger des glaces. C'est assez amusant. Il y a une vitrine réfrigérée et on mange de la glace en écoutant du jazz, Ronnie Scott, et elle sera la tourneuse de Ronnie Scott, et puis elle va essayer de faire passer Keith Jarrett à Cologne, à l'Opéra de Cologne, et c'est une multitude de difficultés. Vous vouliez ajouter quelque chose, Guillaume ?
Oui, je parle sous votre contrôle, Louis-Marie, que ce jour-là, le piano de Keith Jarrett n'était pas accordé.
Ah ben alors, c'est encore plus compliqué que ça.
On l'entend bien là, oui, il y a des fragments.
C'est encore plus compliqué que ça parce que il attendait un piano, toujours le même, le Bösenberger, que vous me pardonniez mes fautes de langage. Je suis pas très
féru de piano. Vous voulez déménager, vous ne les jouez pas.
Ouais, voilà. Et c'est vraiment très compliqué à déménager. Toujours est-il que ce n'était pas le bon qui était là. Et celui qui était sur la scène était désaccordé et avait une pédale cassée. Et des accordeurs sont venus, ont réussi malgré tout à l'accorder, parce qu'ils ont dû l'accorder, parce qu'ils passaient à l'Opéra de Cologne à 23h après un opéra qui était donné à 21h. Lulu. Et évidemment, les accordeurs étaient gênés par la musique de l'opéra pour accorder. C'est ennuyeux quand on doit accorder un instrument. Ils ont réussi à réparer la pédale et Vera a réussi à convaincre Keith Jarrett de jouer. Et il y avait un homme qui était là, qui avait été payé, qui a fait l'enregistrement, alors que Jarrett ne le voulait pas. Ça a été fait et c'est devenu un succès mondial. Et Vera Brandes est vraiment extraordinaire. Il faut que vous voyez ce film. Elle est passionnante. Lui aussi est passionnant, on est éclairé sur cette musique, c'est vraiment très très fort. Et la musique de Keith Jarrett, on l'entend très peu finalement, une façon de lui rendre hommage, alors c'est pour ça qu'on s'en écoute un petit peu. « Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au cours de cette tournée, Keith Jarrett a fait tous ses concerts et à chaque fois, ce que les spectateurs entendaient était forcément différent de ce qu'il a fait, l'avait fait la veille. Et pour pouvoir faire cette tournée, il avait pas un rond, alors au lieu de le faire en avion, ils avaient vendu les billets d'avion et il a fait cette tournée en 4L. Mais si. The Cold Concert, facile à trouver. Environ 58 minutes de musique en 4 mouvements différents. Le plus long durant 26 minutes, c'est le premier, celui que vous entendez. Et puis il y en a 3 autres de différentes longueurs, le plus court étant de 6 minutes. Et sur ce magnifique piano, nous retrouvons notre homme de loi des séries, Gregory Comm, qui parle bien sûr de The Walking Dead.
Je déclare l'audience ouverte.
Ah, Louis-Marie, le zombie, le monstre de référence avec le vampire du cinéma qui revient au goût du jour avec 28 ans plus tard dans la fameuse franchise 28, hein, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, il devait y avoir 28 mois plus tard, mais ils ne l'ont pas fait, ils ont fait 28 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un soft reboot, hein. Je ne vais pas critiquer le film là, on pourra en parler une autre fois. C'est un soft reboot, en fait, on revient sur une Angleterre assiégée par les zombies et les autres pays qui s'en sont sortis, on ne sait pas comment, alors que normalement l'infection devait partir partout. C'est l'habitude, on reprend une vieille histoire, une vieille idée et on repart sur autre chose. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des zombies à la télé et plus particulièrement de The Walking Dead. The Walking Dead, c'est une série qui a tout fracassé à son arrivée, les gens étaient en haleine. C'était vraiment le pendant de Game of Thrones. On en parlait quasiment autant que Game of Thrones. Tu as vu quel perso s'est fait tuer, oh, c'était sale. Oh, tu as vu ce qui leur est arrivé, c'était pas cool. Et Walking Dead s'est inspiré d'une bande dessinée et une bande dessinée qui a complètement plagié 28 jours plus tard. Alors, on le dit peu, je ne sais pas pourquoi. La BD est sortie un an après. Alors, l'auteur a dit, mais non, j'ai eu l'idée en même temps, même si ça sort un an après. Qu'est-ce qui se passe dans Walking Dead, donc dans la BD comme dans la série télé, on a Rick Grimm qui se réveille après un coma et qui se rend compte que le monde n'est plus le même. Il est totalement vide. Puis très vite, il va entendre des grognements un peu bizarres. Et il va se rendre compte qu'il y a des sortes de morts-vivants. Alors, on ne dit pas le nom de zombies, on dit les marcheurs de The Walking Dead. Mais des zombies qui vont essayer de le bouffer et de bouffer tous les gens qu'ils vont rencontrer d'à peu près vivants. La particularité de The Walking Dead, c'est qu'effectivement, là, l'ensemble du monde est tombé. On va avoir, comme dans 28 jours plus tard, donc ce côté, on se réveille du coma et le monde est déjà chuté, donc on ne voit pas la chute du monde. Ensuite, on a, comme dans 28 jours plus tard, les gens qui vont glisser, c'est-à-dire que rapidement, nous avons les ennemis ne vont plus être que les zombies, qui vont même être presque quelque chose d'à côté, un danger mineur. Le vrai, vrai, vrai danger, c'est l'humanité qui se bouffe entre elles, qui veut se tuer, se violer, se dominer, se conquérir. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui a repris les idées fortes de 28 jours plus tard, mais qui les a mis sur le monde entier, un monde post-apocalyptique. Au début, ça marche bien. Des personnages intéressants, bien écrits. Puis à un moment, ils décident, parce que les scénaristes se sentent bien meilleurs que les scénaristes de la BD, de partir sur autre chose. Et c'est là, attention, je vais spoiler à mort, où ils se vautrent complètement. Déjà, le premier point, qui est le même problématique comme dans la BD, c'est pas crédible. Les zombies, ils ont deux tensions. Alors oui, ils marchent, mais pas super vite, contrairement à 28 jours plus tard, où ils sont super rapides. Et quand on vous mord, vous mettez 2 jours à vous transformer. Donc largement assez de temps pour vous buter. Donc c'est impossible. Avec les moyens d'aujourd'hui, des gens sur des porte-avions. D'ailleurs, World War Z le faisait très bien, ça, alors que les zombies étaient beaucoup plus dangereux. C'est impossible que le monde tombe là-dessus. Bref, ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que c'était malin de reprendre le côté de 28 jours plus tard, de dire, bon, on n'a pas vu comment s'est passée l'infestation, parce que sinon, en fait, on va montrer que c'est pas logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand ils veulent bifurquer, c'est qu'ils vont tuer des personnages qui ne meurent pas dans la BD juste pour me dire hey, « Eh, on vous a surpris, vous vous attendez pas. » Sauf qu'en fait, ils vont buter le fils de Rick et ils vont tuer le message de la BD Walking Dead. Le message de la BD Walking Dead, c'est dans un monde qui ne sera plus jamais le même, dans un monde dramatique où on prend des décisions horribles. Qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on transmet? Et le but de la BD, c'est Rick qui transmet à son fils, qui l'accompagne dans ce monde, à qui il va transmettre, tenter de transmettre des valeurs, alors que son fils est en train lui aussi de glisser sur des choses compliquées. Et il va tout faire pour que son fils survive. C'est ça son but, même s'il veut aussi recréer une communauté, mais son but premier, c'est ça. Et quand dans la série, ben vous butez le fils, vous enlevez tout message de l'œuvre et vous n'en devenez plus qu'à une œuvre de zombies qui est somme toute très classique. Ensuite, ils ont voulu faire des spin-offs. Premier spin-off, Fear the Walking Dead, raconter le début de l'invasion zombie. Alors, ça semble très intéressant, sauf qu'en fait, les mecs sont vite bloqués, soit dans des immeubles, soit sur un bateau, donc on voit pas le début. Ils ont essayé de faire ensuite les zombies à New York, ils ont essayé de faire les teenage avec les zombies. L'acteur principal Rick Grimm a voulu se barrer, donc ils ont fait semblant de le tuer, mais en fait il est pas mort, il est kidnappé par des méchants militaires et il va y avoir un spin-off sur lui. Donc on voit la série qui se perd, qui ne sait plus quoi raconter, qui démultiplie les projets alors qu'en fait on est sur quelque chose d'un peu vide. Donc le retour du zombie, c'est bien, mais en fait il faut avoir quelque chose à dire, comme le faisait Romero à l'époque où c'était une satire sociale. Est-ce que je vais vous conseiller de regarder The Walking Dead? Non. Non, je vais vous conseiller de lire la BD, elle est largement meilleure, elle apporte largement plus de réflexion. Et si vous avez besoin de voir des films de zombies, allez voir 28 jours plus tard, revoyez-le hein, en VOD, ou allez voir World War Z, qui a ses défauts mais qui n'est pas inintéressant, ça sera largement mieux. Cher auditeur, votre temps est précieux et je vous déconseille de le passer à regarder The Walking Dead.
Les prescriptions de Grégory Combe sont comme ça, c'est notre homme de loi des séries. Et il faut s'y faire. C'est une ordonnance et c'est comme ça. Vous le retrouverez comme l'ouvreuse et nous tous au mois de septembre. Cette chanson magnifique, on la doit à Michael Andrews et Gary Jewell pour ce qu'ils en ont fait, l'interprétation, mais l'original, c'est Tears for Fears, c'est Mad World. Le voilà, le Mad World, dans Donnie Darko. C'est là que vous trouvez cette chanson sublime, comme dans ce film qui ne l'est pas moins, un film fantastique sorti en 2001, qui révélait un acteur, eh oui, et qui depuis a fait un beau chemin, Jack Gyllenhaal, et il était donc Donald Darko, qui était un jeune homme qui avait un adolescent en marge, hein, qui avait des problèmes intelligents mais perturbés. Il a un ami imaginaire, Frank, qui a un lapin géant, on le voit sur l'affiche d'ailleurs, au visage effrayant, et par miracle, Donnie échappe à la mort, et Frank, le lapin géant, lui annonce que la fin du monde adviendra dans exactement 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Vous voulez avoir la suite? Eh bien, vous irez voir le film. C'est facile au cinéma Pathé Wilson. Et c'est vendredi 27 juin à 19h30 dans sa version originale. Et au Wilson, comme au Labège, à Labège, pardon. Oh, vous irez voir ça. Eh bien, la musique est devenue très célèbre, et pourquoi ? parce que les requins mécaniques étaient le plus souvent en panne.
Oui. Tout est misé sur la musique et le...
pour créer l'ambiance.
Ouais. Il nous faut un plus gros bateau. Hein.
Ça marche très très bien. Ouais. Et on souffle les 50 bougies des Dents de la Mer. C'est pour ça que c'est reprogrammé au cinéma Patty Wilson et Patty LaBelge. Demain, jeudi 26 juin à 22h dans sa version française, c'est à LaBelge. Et à 19h30 dans sa version originale, c'est au Wilson à l'Utopia Borde-Rouge, un monument du cinéma. 1958, Orson Welles, La Soif du Mal, c'est gigantesque.
Avec ce fameux plan séquence d'ouverture.
Ah, ben oui. Mmh. Et puis Orson Welles, crasseux, affreux, le flic louche, le dégueulasse, quoi. Et puis Charlton Heston, le gentil flic mexicain. Il faut voir Charlton Heston maquillé en mexicain. Ouais. C'est extraordinaire. À l'Utopia Borde-Rouge.
C'est le sombrero du film.
Exactement. Et il y a Janet Leigh qui joue le rôle de sa compagne. Utopia Borde-Rouge pour ça, puis dans la galaxie Burton à la Cinémathèque. Alors la galaxie Burton, c'est au cinéma Patty Wilson, L'Échine du Diable et Beetlejuice pour finir la saison. Et puis pour les road movies, on va sillonner les routes américaines avec Bonnie and Clyde. Bonnie Parker et Clyde Barrow, il me semble que Serge Gainsbourg en a fait une chanson.
Oui, pareil, oui.
Et Little Miss Sunshine, alors là, c'est une aventure familiale dans un combi qui a des problèmes de première.
Oui,
puisqu'il ne démarre qu'en seconde, il faut le pousser. Tout ça, c'est road movie, on est toujours partenaire. Et vous pouvez toujours aller voir ces films avant que la Cinémathèque ne passe au plein air. Et vous le savez, il y aura du plein air, même s'il n'y a plus de cours de Cinémathèque. Mais on ira à l'hôtel Saint-Jean, rue de la Dalbade. C'est là où se trouve la DRAC Occitanie. Je crois que c'est au 32 ou au 36. Mais enfin, si vous êtes au 32, vous n'en êtes pas loin.
Le 36, c'est le Quai des Orfèvres, en principe.
Et si vous voulez d'ailleurs écouter Franck Lubé, le programmateur de la Cinémathèque, en parler, écoutez le podcast Mercredi Cinéma sur radioprésence.com. Et pour gagner vos places, cinéma@radioprésence.com.
Mais bien, il a tout dit.
Il est formidable.
À vous, il est extraordinaire. À vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec La Crise de Colin Serrault, un film de 92 avec Lindon et Tim Seat. L'histoire de Victor qui perd son boulot et sa femme. Il cherche en vain une oreille compatissante parmi ses proches. Des comédiens formidables, des dialogues percutants pour une satire cinglante. Jeudi, France 4, 21h, Le Secret de Brokeback Mountain de Ang Lee avec Heath Ledger et Jake Gyllenhaal, dont vous parliez à l'instant. En 1963, Jack et Ennis se font recruter comme travailleurs saisonniers et sont chargés de garder des troupeaux de moutons à Brokeback Mountain, un coin reculé du Wyoming. Une amitié virile va naître entre les deux hommes. Lion d'or à Venise, un drame humain à la fois sobre et poignant, réservé à un public averti. Samedi, 21h, France 4, Mes voisins, les Yamada d'Esao Takahata. Les Yamada forment une famille à la fois unique et semblable à beaucoup d'autres. Une caricature tendre et hilarante de la famille, de la vie familiale, adaptée d'une célèbre bande dessinée japonaise. Dimanche, Arte, 21h. Pardon, un petit chat. Ça sera une soirée Mad Max. Mad Max, George Miller, 1979, Mel Gibson. Une œuvre percutante, sombre, à la réalisation assez virtuose et aux scènes de course-poursuite impressionnantes, on pourra le revoir. Donc. Et vous pouvez enchaîner, comme ils disent au canard, à 22h35 avec Mad Max 2, Le Défi, sorti en 1981. Merci Guillaume pour ce sourire. Lundi, France 3, 21h10, vous en parlez là aussi, il y a quelques minutes, ça sera une soirée Dents de la Mer, figurez-vous. Mais oui, les vacances approchent, donc on veut faire peur aux gens pour pas qu'ils aillent à la plage. Voilà. Et en plus, on a peur, parce que ça fait peur, Dents de la Mer. Sorti en 76, un film impressionne, encore par son intensité, sa réalisation et sa capacité à susciter la peur avec un trio d'acteurs vraiment au top, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw. Il nous faudrait un bateau plus gros, mais je l'ai sorti déjà tout à l'heure. Et là aussi, vous pouvez enchaîner, comme disent au canard, à 23h10 avec Les Dents de la Mer 2. Il faut bien séparer Les Dents de la Mer 2. Hein. Là, c'est... Ça y est, vous avez compris. Là, c'est Jean Nossoir qui s'y colle. Puis le 78, il est moins bien que le premier, mais bon. Voilà, c'est une soirée, quoi. Les conseils de lecture, les bons plans de Lolo pour la plage.
On est impatient d'entendre les bons plans de Lolo, parce que pour le moment, les bons plans cinématographiques sont pas mal, ils sont gratinés.
C'est déjà vu, mais bon...
Mais on y va.
Les jeunes ne connaissent pas ces films, il faut leur montrer.
Oui, mais vous avez bien raison.
Les conseils de livres de poche, La Bande à Gabin, Billet, Audiard et les autres, d'anecdotes en confidence. Philippe Durand dévoile l'intimité de ses tontons flingueurs. Un très beau livre que vous retrouvez pour 7 euros dans la collection Point Poche. Et puis Cinema Speculation de Quentin Tarantino. Voilà, un livre qui mène l'histoire personnelle, les anecdotes truculentes, les analyses et les critiques de films. Vous savez que Tarantino est un grand cinéaste, mais aussi un grand amateur de films. Voilà, vous retrouvez ce livre, aux éditions J'ai lu pour 10 euros. Voilà, il est temps que les vacances arrivent, j'en peux plus.
C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants.
N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons.
Installation, exposition, atelier, mais aussi musique, n'est-ce pas, à Maya Sangeli, à cette fête ou fête de l'image. C'est compliqué à dire parce qu'il faut s'amuser avec le jeu de mots, mais quand on parle à la radio, c'est plus compliqué. Musique, donc.
Oui, c'est I See Dead People de Hinterheim, un groupe que vous pourrez retrouver le dimanche soir à minuit. C'est d'ailleurs une performance ciné-concert, une mise en musique de courts films en Super 8 et 8 mm numérisés.
Alors, il y a 4 groupes prévus le dimanche. Celui qui précède Hinterheim, dont vous venez de parler, ciné-concert à 0h, c'est à 22h, c'est Cascade, et là c'est un concert cinématographique. Vous nous expliquez la différence.
Alors, normalement, c'est censé être défini de la même manière en tant que ciné-concert. Donc, c'est un concert qui est accompagné de projections. La différence avec...
Le ciné-concert, c'est qu'on voit le film.
Alors, là, il ne sera pas question justement de film dont vous parlez depuis tout à l'heure, hein. mais de projections audiovisuelles. Qui viennent accompagner le concert, soit en rythme, soit plutôt pour créer une petite présence en fond.
Ils disent les images et les sons se bousculent.
Exactement.
En tout cas, la musique a quelque chose qui prend, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui traîne et qui nous emporte et qui tourne dans la tête. Alors, 4 groupes par soir, c'est une belle programmation, ça.
4 groupes par soir Alors, il n'y en a que 3 le samedi.
J'ai compris. J'ai compté 2 fois le même.
C'est pas grave, c'est parce qu'en fait, le dimanche, on commence 2 heures plus tôt. On commence à 16h pour une ambiance un petit peu plus retour de plage, lounge, qui va monter crescendo justement via la programmation. Tandis que le samedi sera beaucoup plus festif avec, pour commencer, Rock et Dudu, un concert de post-punk.
Et puis il y a un autre ciné-concert, Freud vit au Far West. Ça, nous l'ignorions.
Ah, c'est joli titre, ça.
Tout à fait, de Ivan et la gêne occasionnée.
Il faut préciser que tout est gratuit.
Gratuit et à participation libre, bien sûr, pour soutenir le festival avant tout.
Et puis on peut adhérer à l'association des vidéophages.
Tout à fait, exactement. C'est une adhésion à prix unique de 5 euros.
Pour une année. Et là, on entend Freud vit au Far West.
Oui, du groupe Ivan et la gêne occasionnée.
Arizona, 1907. Les hommes blancs ont fini.
Alors, on coupe la parole à Freud vit au Far West. Il fait du cheval aussi. Avec les installations, il y a plein de belles choses. Le tactique, tic-tac, le collectif, l'interrupteur. Il y a Christophe Jacquemart avec ses lanternes animées. Il y a plein de belles choses qui resteront là installées pendant les 2 jours à Maya.
Oui, tout à fait. À l'exception d'une installation qui s'appelle Espace d'espèces, qui aura lieu seulement le dimanche et qui sont des petites capsules sonores qui donnent à entendre la faune et les alentours de Toulouse, la biodiversité.
Et en plus, vous invitez toutes les personnes, les spectateurs, les festivaliers, appelons-les comme ça, qui viendront à participer à des ateliers.
Tout à fait, on a une jolie sélection d'ateliers. Alors, je peux que vous conseiller l'atelier de création de films d'animation en stop motion par Axel Barren. Ça va être très très chouette. C'est le samedi et le dimanche de 18h à 22h.
Et j'imagine qu'on peut voir les productions des gens qui participent à ces ateliers à la fin de l'atelier.
Oui, tout à fait, bien sûr. Quand on participe à l'atelier ou même qu'on ne fait que regarder, on a l'occasion de voir le résultat, oui.
5 et 6 juillet, samedi 5 et dimanche 6 juillet, ça se passe où ?
Au bassin des Filtres, quartier des Amis Deniers.
Merci à Maya Sangeli d'être passée nous voir.
Merci à vous.
Quels sont vos coups de cœur, messieurs, sur cette musique magnifique ?
Les coups de cœur, ce sera F1, le film Once Upon a Time in Gaza, 13 jours, 13 nuits, et la Cinémathèque en plein air cet été. Cinéma en plein air, toute la programmation sur leur site internet, bien sûr.
Once Upon a Time in Gaza, Amélie, la métaphysique des tubes, The Life of Chuck, Fête de l'image, toute la programmation, lesvidéofages.org, cinémathèque de toulouse.com pour le cinéma en plein air, et puis Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, demain, place des Papyrus, 21h45.
Once Upon a Time in Gaza, Avignon, Amélie et la métaphysique des tubes, The Life of Chuck. Tout ça, il faut aller le voir pendant la fête du cinéma, et puis il faut aller le 5 et le 6. Faire de l'image et aller au cinéma de plein air de la Cinémathèque. Merci messieurs.
Bon été
merci
à tous.
Bon été à la rentrée.
On se retrouve à la rentrée. Merci à Maya.
Merci. Et
salut.
La vérité vous rendra libre. Inspiré de l'évangile de Jean, ce thème sera débattu au cours de la 17e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet.
L'Université chrétienne de Castanet, c'est les premiers.